Bienvenue à la 30e édition de Litteramour. Mon invité est le comédien Michael Effas. Il avait 23 ans lorsqu'il a obtenu son premier engagement au Theater am Neumarkt de Zürich en 1969. Il a ensuite été engagé au théâtre à Bâle, Cologne, Bonn, Hambourg et Berlin. Michael Effas a fait des études de lettres modernes, il a joué dans des séries de télévision et fut narrateur dans des productions radiophoniques et des livres audio. Nous nous sommes rencontrés il y a de nombreuses années lors de la lecture scénique d'une émission de radio que j'ai écrite sur Antoine de Saint-Exupéry et également lors d'une production sur le Centre Médem à Paris, la plus grande bibliothèque européenne de littérature yiddish. Il y a une dizaine d'années, Michael Effas a commencé à écrire de la prose. En 2016, il a publié son premier roman « Ortsfremde ». Aujourd'hui, je me réjouis de l'accueillir chez moi. On va parler de votre roman « Vinck, Jean-Marie Vinck », sorti en 2023.
Ich freue mich auch, ich bedanke mich, dass ich hier bin.
Je suis également content et je vous en remercie. J'étais brièvement irrité. Bien sûr, il doit s'appeler Vinck, tant qu'il est en France. Mais je suis à Berlin en ce moment et mon héros, je l'ai toujours appelé Fink.
Tatsächlich, auf was wollen wir uns einigen? Vraiment, alors, comment on l'appelle?
Fink, weil es natürlich leichter ist für das
Fink, parce qu'il est évidemment plus facile pour le public allemand qui lit et aussi pour le public qui entend Hans Fink se changer en Jean-Marie Vinck. À Paris, il devient naturellement Vinck.
Du findest es auch ganz toll, der Jean-Marie.
Okay, dann bleiben wir jetzt bei Fink. Ihr Buch, Michael Effas, ist eine intelligente, heiter ernste Betrachtung der Frage, die sich irgendwann jedem von uns aufdrängt. Also, bon. Continuons à dire Fink. Votre livre, Michael Effas, est une réflexion intelligente, joyeuse et sérieuse sur la question qui s'impose à chacun de nous à un moment ou à un autre. Alors, qui suis-je au fond ? D'où est-ce que je viens ? Où est ma place ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et de bien dans ma vie ? Ai-je commis des erreurs qui ne peuvent plus être réparées ? Vous parlez de conflits de générations, de personnes contraintes à l'exil et qui reviennent dans leur pays d'origine, lequel n'accueille les personnes déplacées qu'à contre-cœur. Vous parlez d'enfants qui se sont exclus de la vie de leurs parents et même de leurs grands-parents. Vous parlez d'amour, d'aveuglement et d'irresponsabilité, de tentatives de faire le point sur le passé et de réconciliation avec ce que l'on est désormais. Le personnage principal du roman est un grand joueur et quelqu'un qui attire autrui par le don d'être l'autre. Jean-Marie Fink est un homme qui a choisi ce nom des années après avoir quitté Vienne, sa ville natale qu'il détestait, pour apprendre la couture à Paris et faire carrière dans la création de mode. Il est né Finkelstein, mais ce n'est pas en France que nous le rencontrons pour la première fois, mais dans une chambre d'hôpital à Berlin. Il a 60 ans et a subi une opération cardiaque. Il est confus. Ce qui est resté intact, c'est son sens de l'esthétique. Ainsi, face à toutes ces productions artistiques quelconques accrochées au mur, il est saisi de dégoût. Sans hésiter, il arrache la camelote encadrée du mur et gifle une infirmière qui essaye de l'empêcher. Cette scène est incroyablement turbulente. Vous vous êtes amusé, je pense.
Ich habe wirklich laut gelacht, weil das so eine unglaublich turbulente Szene ist, die zum Anfang des Romans gehört. Und sich auszumalen, habe ich mir gedacht, wie die beiden da miteinander ringen, das muss auch ihnen Spaß gemacht haben.
Zweifellos. Ich habe auch meine vielfältigen Erfahrungen im Krankenhaus.
Oui, absolument. Au cours de ma vie, j'ai été hospitalisé plusieurs fois. Je n'ai pas forcément vécu une telle scène, mais la littérature a le droit d'exagérer. Fink, c'est important, se retrouve pour la première fois dans une situation d'impuissance et il est bouleversé. Il était un homme d'action. Depuis toujours, il a dirigé sa vie et maintenant, c'est la vie qui le dirige. Il a du mal à le supporter, je pense. Et il a développé une agressivité qu'il ne connaissait pas du tout jusqu'à présent. Donc, qu'une infirmière l'énerve tellement, c'est nouveau. À ce moment-là, il doit se défendre. Il doit simplement passer à l'acte, oui.
Und auch eine Aggression entwickelt hat bei ihm, die er an sich gar nicht kannte bislang. Also, dass eine Krankenschwester in dermaßen, also außerhalb des Krankenhauses, hätte er sie gar nicht bedacht. Das fände er so lapidar. Aber in diesem Moment muss er sich wehren, muss er einfach tätlich.
Ihr Protagonist ist im Krankenhaus. Die Ärzte raten ihm, mit dem Rauchen aufzuhören, weniger zu trinken. Er erlebt sich ja selbst als sehr bedürftig. Votre protagoniste est à l'hôpital. Les médecins lui conseillent d'arrêter de fumer, de boire moins. Il se sent lui-même très nécessiteux. Et cela renvoie cet homme, par ailleurs sûr de lui, à lui-même. Vous écrivez, il a pulvérisé toutes les écorces de son existence discordante pour parvenir au noyau de Fink. Cela n'en finissait pas. C'était toujours les mêmes écorces. Il s'assombrissait, il ne parviendrait jamais à atteindre le noyau. Parlez-nous du milieu dans lequel votre protagoniste a grandi et des carapaces qu'il a dû se forger.
Und welche Schalen sich zulegen musste.
Erstmal muss man sagen, er ist ein versierter Träumer. Es passiert ihm ständig, dass ihn Träume aufrütteln und oder irritieren.
Tout d'abord, il faut dire que c'est un grand rêveur. Il lui arrive souvent de se sentir bouleversé par ses rêves. Et là, il fait un rêve qui dépasse l'ampleur et la qualité de ce qu'il connaît en matière de rêve. Il se dit, mais alors, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas encore Fink. Fink, il doit encore naître. Mais qu'est-ce que le réel? Et cette pensée est nourrie de la recherche d'authenticité très en vogue depuis quelque temps. Sois authentique, sois toi-même, tu dois trouver ton moi. Donc, c'est plutôt le rêve qui lui fait comprendre. Tu devrais régler des choses. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ce n'est que de l'écume.
Also, es ist eher der Traum als diese Ideologie, die sich breit gemacht hat in der Gegenwart. Das ist es eher der Traum, der ihn sagt, du musst noch mal irgendwie was tun, weil alles, was bislang, was ich da gemacht habe als Fink, das ist nur Schaum. Ja? Das ist nicht im Grunde genommen das, was den Kern, was meinen Kern ausmachen könnte. Das ist Verkleidung.
Les grands-parents de Fink ont émigré à Shanghai. Son père y est né. Et après la guerre, la famille est retournée en Autriche.
Die Großeltern, das ist überhaupt die erste Generation, die sich assimilieren konnte. Also der Großvater stammt aus Tarnopol und die Synagogengemeinschaft dort im Tarnopol hat alles Geld zusammengekratzt, damit dieser hochbegabte Junge studieren kann. Und
die Les grands-parents, c'est en fait la première génération qui a pu s'assimiler. Le grand-père est originaire de Tarnopol, en Ukraine. Et la communauté juive de Tarnopol a rassemblé tout l'argent nécessaire pour que ce jeune surdoué puisse faire des études. Le choix des possibilités, ce n'était pas énorme pour les juifs. À cette époque, Vienne était à l'avant-garde de la médecine. Et c'est pourquoi ils ont envoyé Finkelstein à étudier la médecine pédiatrique auprès d'un célèbre pédiatre. Il a rencontré Freud. Sa future femme est devenue analyste à Vienne. Puis est arrivée l'année fatidique de 1938, l'Anschluss. Une fête de joie pour les Autrichiens, et les Juifs se devaient de prendre des décisions. Beaucoup de Juifs n'avaient pas le choix, mais uniquement pour Shanghai, on n'avait pas besoin de visa. La difficulté était d'obtenir un passage pour bateau, donc ils s'en sont tout juste sortis. Le jeune Nathan, qui deviendra plus tard le père de Hans, venait de naître. Il est donc arrivé très jeune à Shanghai et y a grandi. Le garçon en a profité. Nathan était doué pour les langues. Il a très vite appris le chinois, ce qui a ensuite été très utile pour sa carrière de diplomate. Bon, et puis, ils sont revenus. Il n'y avait pas d'autre possibilité que de retourner à Vienne, parce que le reste de la famille avait péri dans les camps. Et puis, il n'y avait pas de possibilité d'aller en Amérique. Ils sont arrivés à Vienne, dans un camp de personnes déplacées, Et là, ils se sont rendus compte que le marécage brun n'avait pas disparu. On n'était plus déportés, on vous disait, et c'est encore plus méchant en Viennois. On a donc oublié de vous gazer, c'est dommage.
On ist nicht mehr deportiert worden. Es wurde dann nur gesagt, so was in Wienerisch dann vielleicht noch gemeiner ist. Man hat sie also vergessen zu vergasen. Das ist aber schade.
Das ist die Situation, in der vous écrivez. Et j'ai noté cette phrase parce que j'ai trouvé l'image si forte que Nathan souffrait en voyant les bouches de travers de ses camarades de classe, la haine des Juifs cousue dedans.
Ja, da ging es ihm in China besser, ja. Also er hat bedauert, dass er nicht mehr in China war und er hat auch immer eine große Affinität zu China gehabt und ist da als Grund seines Berufes dann auch als Diplomat ist er häufig in China gewesen.
Oui, aber da war se sentait mieux en Chine. Alors il a regretté de ne plus être en Chine. Il a toujours eu une grande affinité avec la Chine. Et en raison de sa profession de diplomate, il s'y est rendu très souvent. Mais à Vienne, l'antisémitisme au quotidien était bien sûr choquant. Mettre au monde des enfants, c'était ne pas laisser Hitler gagner. C'était une vraie motivation, mais ce n'était pas suffisant. Et en plus, ces gens qui revenaient des camps et de l'exil étaient très très malades. L'idée qu'ils avaient d'eux-mêmes avait en fait été perdue. Et les ressources nécessaires pour faire grandir un enfant heureux n'existaient pas du tout. C'était donc une situation difficile. Au fond, il ne peut pas y avoir d'enfance réussie dans une telle ambiance.
Also, es kann im Grunde genommen in solch einem Ambiente keine Kindheit gelingen.
Wir kommen vielleicht auf die Kindheit und das Schweigen in der Familie noch mal zurück. Ich wollte, wenn wir über das Nachkriegs Österreich auch sprechen, noch zwei Personen hervorheben. Si nous parlons de l'Autriche d'après-guerre, je voulais encore mettre en avant deux personnalités qui jouent un rôle dans votre roman. Il s'agit de Bruno Kreisky et de Hans Thalberg. Tous deux ont dû fuir l'Autriche en tant que juifs. Thalberg a fait partie de la résistance en France. Ils sont devenus diplomates, ambassadeurs, Kreisky, ministre des Affaires étrangères, puis chancelier fédéral. Thalberg a perdu ses parents, sa sœur et presque toute sa famille dans les camps. Pourquoi avez-vous donné à ces personnalités réelles, Kreisky et Thalberg, une place dans le roman?
Allô? Weil inzwischen hatte eine gute Freundin von mir in einem Gespräch, da ging es um den sehr schönen Film von Danny Levy, Alles auf Zucker.
Une amie m'a dit, lors d'une conversation sur le très beau film de Danny Levy, Tout en sucre, qu'en lisant mon roman, elle avait toujours pensé à la pièce de Carlo Goldoni, Le serviteur de Demeter. Et là, j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit, mon Dieu, cette comparaison, c'est en fait l'assimilation des Juifs. Kreisky, Thalberg et même les Finkelstein à Vienne sont ces Trufaldino qui courent dans tous les sens, qui doivent servir ici et là, et qui veillent à ce qu'un parti ne sache pas que l'on sert aussi l'autre. Ils n'ont même pas le temps de reprendre leur souffle, car ils se rendaient à leur compte qu'ils meurent de faim entre-temps. Et c'est ce qu'ils font. Ils meurent de faim. Pour moi, c'est une image tellement claire que Kreisky, par exemple, et Thalberg, vous l'avez raconté, ont perdu leur famille. Ce sont donc tous des victimes, et qu'ils ont déployé toute leur énergie pour améliorer ce pays dans lequel ils sont revenus. C'était un combat. Donc, ils ont été submergés par la haine, tous les deux. Et bien sûr aussi Finkelstein, le pédiatre. L'administration à Vienne dit alors... Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous donner de cabinet. C'est qu'il dépend d'un pédiatre qui a fait sa carrière en tant que nazi, parce que tous les autres médecins juifs étaient partis. Ils avaient enfin de l'air et de la place pour organiser leur carrière. Et il doit maintenant ouvrir et partager un cabinet avec un médecin nazi. C'est donc un éternel dédoublement, c'est un éternel service des deux côtés pour pouvoir exister et créer quelque chose de bien en même temps.
Und mit solch einem Nazi-Arzt muss jetzt eine Gemeinschaftspraxis aufmachen, ja? Also, es ist ein ewiges Aufspalten, es ist ein ewiges ja, nach beiden Seiten hin dienen, um existieren zu können und dabei noch was Gutes zu schaffen, ja?
Eine unglaubliche Anstrengung, aber auch mit Charme. De tels compromis sont probablement une des raisons pour laquelle on se tait avec tant de persévérance dans les familles, y compris dans la famille Finkelstein.
Le jeune Hans a l'impression d'être enfermé dans le rôle de celui qui écoute humblement et il se révolte.
Er wird in die Rolle des demütig Zuhörenden gezwängt. Er rebelliert dagegen. Es gibt dieses unausgesprochene Frageverbot, sowohl was die ganz realen, handfesten Gründe anging, zu emigrieren, das Leben dann im Exil und auch die Gründe für die Rückkehr und dass sie sich arrangieren müssen. Die Eltern kneifen den Mund zu, weil sie, wenn sie nichts sagen, auch ein bisschen Macht behalten über die Kinder. Sie spüren ja deren Auflehnung.
Also ich weiß das von jüdischen Familien, wo es so gewesen ist. Also mein Vater hat auch nichts erzählt.
Je le sais par des familles juives où cela s'est passé ainsi. Mon père ne m'a rien dit non plus. Je n'aurais jamais pensé à toutes les horreurs qui lui sont arrivées et aussi à ma mère qui a survécu sous un faux nom. Donc, elle aussi a été menacée pendant 12 ans. Mais cela n'a pas posé sur moi comme un gros nuage noir. D'autres enfants de la deuxième génération m'ont fait part de cette expérience. Ils en ont beaucoup souffert. On leur a constamment dit que de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre et soyez reconnaissant de ne pas avoir vécu tout cela. Et qu'est-ce que vous en savez? Donc au fond, c'était une honte de raconter cela. Je pense que c'est un vrai mot, la honte. Je pense que lorsqu'on a vécu quelque chose qui ne peut pas vraiment être exprimé par des mots, on n'a pas la possibilité de le transmettre de manière à être compris. Et on préfère ne pas faire du tout. Dans ce cas, je ne veux même pas en parler. Il croyait, s'il se taisait, les enfants iraient bien et ne seraient jamais gênés.
Und dann schon lieber gar nicht, ja, dann will ich gar nicht darüber reden. Und auch so ein falsches Verständnis, wenn ich euch das nicht erzähle, dann geht's euch ja gut und könnt ihr unbelastet in die eure Zukunft gehen.
Ihr Hans will unbedingt weg. Er verliebt sich in Wien in eine junge, aber deutlich ältere Frau, eine Pariserin, eine Schauspielagentin, die eben auch nur für eine begrenzte Zeit da ist. Hans veut absolument partir. Il tombe amoureux d'une femme nettement plus âgée que lui, une Parisienne qui est de passage à Vienne. Elle déclenche chez Hans le désir de se projeter dans un monde qui lui est étranger. J'aimerais bien que vous lisiez le passage où Hans et Corinne vont au musée, quelques heures avant le retour de Corinne à Paris. Hans l'emmène regarder une petite peinture sur bois que le peintre italien Giorgione avait créée en 1506.
Dann standen sie vor Giorgiones Laura, dieser kleinen Holztafel zwischen den mächtigen, wandfüllenden Kollegen. Ja, und jetzt? Corinne schaute ihn erwartungsvoll an.
Puis ils se sont retrouvés devant la Laura de Giorgione, ce petit panneau de bois entre les imposants tableaux qui couvrent le mur. Oui, et maintenant, Corinne le regarda avec impatience. Hans se laissa tomber sur le sol lustré et ouvrit son bloc-notes qui reposait entre ses jambes écartées. Corinne n'eut d'autre choix que de s'accroupir à côté du garçon. Même si elle se sentait un peu ridicule, elle ne voulait pas être un rabat-joie. Après avoir finalement atterri sur ses fesses avec un petit plouf et un aïe, son regard s'est posé sur le dessin qui se trouvait dans le bloc au-dessus. C'était tout autre chose que le croquis rapide que Hans avait fait d'elle hier soir à l'ambassade. C'était la même Laura, les traits du visage étaient assez fidèles à l'original. Sauf que cette Laura était nue. Elle fixait d'un air de défi un officier en uniforme, dont le manteau du blé de fourrure était vaguement accroché à l'épaule. Hans mit la feuille de côté et montra la suivante, sur laquelle Laura porte le manteau. Comme chez Giorgione, c'était une copie réussie de l'original. Qu'est-ce que ce garçon me veut? S'est demandé Corinne. Il aurait pu lui montrer les dessins tranquillement au café central. Elle n'aurait pas été moins impressionnée, car ce garçon était doué. Cela l'avait d'abord laissé sans voix. Laura dévêtue était une livrée. C'est ainsi qu'elle le voyait, en présence de l'homme en grande tenue. Laura devient une autre grâce à ce lourd manteau recouvert de fourrure. Celui-ci la protège. Seulement, sans ce manteau, l'amant noble ne peut pas se montrer en société. Courtoisie. Il était justement ravi de lui-même que ce mot lui soit venu à l'esprit, lui interdit de lui reprendre le manteau. Voilà une histoire que tu as inventée, mon cher Hans. Je vais te dire ce que je crois. Laura est une prostituée. Le dernier prétendant noble lui a laissé son manteau en guise de paiement. Et maintenant, Elle est sur le trottoir, son manteau n'est pas fermé, on peut deviner sa poitrine. C'est plutôt excitant, tu ne trouves pas? Non, tu es en train de pécher. Laura est une âme pure. Encore une remarque de ce genre, elle tomberait amoureuse de ce garçon. Elle se mit à rire. Tu es comme le laurier qui la ceint. Tu transfigures la prostituée enceinte. Un manteau d'homme sur une peau nue. Laisse-moi essayer, s'il te plaît, tout de suite. Elle s'empara de ses boucles et l'embrassa. Mais tu as raison. Ces dames à moitié nues, toutes ces Susanna dans leur bain, sont victimes d'au moins deux voyeurs. Le type hors champ, et oui, nous aussi. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Regarde. Elle prit ses dessins dans le portfolio. Sur ces deux feuilles, tu racontes la chronologie. Le peintre, tu l'exclus des voyeurs? Absolument. Il est leur créateur. Il ne les trahit pas. Tu vois ce fantastique tissu de manteau, cette garniture de fourrure? Hans était maintenant dans son élément. Les tissus faits de matériaux très différents et finalement leur coupe mettent en valeur la beauté de la création humaine. Ils gardent le secret et sont eux-mêmes mystérieux. Ils protègent notre âme et peuvent nous faire apparaître sous un jour toujours nouveau. Corinne n'est pas la même aujourd'hui qu'hier pendant le gala. Je les aime beaucoup, toutes les deux. Merci mon chevalier. Et celle d'hier soir? Hans baissa les yeux. Elle prit sa tête entre ses mains, le regarda directement et vit ce qu'elle avait fait en si peu de temps.
À Vienne, le jeune Hans a l'impression d'étouffer. Paris est l'endroit où il voudrait et pourra se réinventer. Il va s'adonner à la création de mode et se construire une existence. Vous écrivez qu'il va raconter des histoires avec des vêtements toute sa vie. Voyez-vous en fait des parallèles entre la création de mode et l'art dramatique?
Stimmt, natürlich. Also wir Schauspieler verkleiden uns ja, spielen Rollen, spielen, wie Sie auch schon erwähnt haben, ist es die tragende Substanz eigentlich.
C'est vrai, bien sûr. Nous, les acteurs, nous nous déguisons, nous jouons des rôles. Comme vous l'avez déjà mentionné, c'est une substance porteuse en fait. Ils pensent qu'en se déguisant, ils créent aussi la possibilité de se réaliser pour d'autres personnes. Il n'y a pas que le spectacle. La musique, la littérature, la peinture sont autant de possibilités de fabriquer des armes étincelantes pour pouvoir supporter la réalité telle qu'elle est. En fait, il faut tout déguiser, créer un deuxième niveau, une deuxième possibilité pour continuer à supporter la prochaine journée grise. C'est ce qui crée la mode. Robert Pfaller, un philosophe autrichien, a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré et qui porte le titre « Les armes étincelantes ». Le déguisement, le jeu, les rôles, ce sont des mesures de sauvetage.
Die Verkleidung, das Spiel, die Rolle.
Das Milieu, in dem Hans sich bewegt, ist ja doch ziemlich fluide. Le milieu dans lequel évolue Hans est quand même assez fluide. Il devient père, mais l'ignore en quelque sorte. Ce n'est que bien plus tard, lorsqu'il a un deuxième enfant avec une autre femme, qu'il peut accepter cette tâche. Dans votre roman, il est aussi question d'erreurs et de responsabilités qui ne sont pas assumées.
Dass er Fehler gemacht hat, wird ihm jetzt eigentlich erst bewusst. Also er ist so selbstbewusst gewesen sein ganzes Leben.
Also, il ne se rend compte que maintenant qu'il a commis des erreurs. Il a été si sûr de lui toute sa vie. Je ne voulais donc pas imiter Cardin ou Lagerfeld ou un autre créateur de mode célèbre, mais comme il le dit lui-même, je n'ai jamais passé ce cap. Il a fait ce qu'il pensait être juste et ce qui lui convenait. Et il a eu du succès avec ça. Mais il n'aurait jamais eu l'idée de blesser ou d'insulter quelqu'un. Il ne savait pas vraiment qu'au fond, il avait abandonné un enfant, qu'il avait abandonné sa femme. Il n'était certainement pas toujours l'employeur idéal. Il n'en prend conscience qu'à travers cette histoire de rêve que je raconte au début. Il se réveille en sursaut et pense que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et peut-être qu'il y a encore d'autres tâches à accomplir. Et là, il se lance dans de grandes excursions à la fin de sa vie.
Vielleicht gibt es jetzt noch andere Aufgaben für mich. Und da macht er sich ja auch nochmal auf große Exkursion am Ende seines Lebens. Ja.
Genau, er wird sich rückbesinnen auf seinen Vater und auch auf seinen Großvater sein. Es gibt eine wichtige Figur, über andere haben wir noch gar nicht gesprochen und wir müssen da einfach auch, natürlich fokussieren, das geht gar nicht anders.
Die Exactement, il va se souvenir de sa paternité et de son petit-fils. Nous laissons de côté pas mal de personnages et nous allons nous focaliser sur un neurologue. Il est directeur d'une institution pour enfants lourdement handicapés. C'est dans cette maison, appelée Château, que se trouve le petit-fils de Hans. Il observe comment le concours auquel participent quelques enfants est en fait truqué. Il est clair qui va gagner cette semaine ou ce jour-là. Le vainqueur sera fêté et la semaine prochaine, d'autres le seraient. Donc, ils sont vraiment tous pareils. Je voudrais que vous lisiez un passage où Béringer, le chef de la clinique, demande à Jean-Marie Finck d'assumer son rôle de grand-père.
Die Wände des Eingangsbereichs waren pastellfarben und in wilder Wischtechnik gestaltet. An ihnen hingen Bilderrahmen ohne Bilder. Nur die Rahmen waren aufgehängt. Rote, grüne, braune, gelbe. Unter jedem Rahmen befand sich ein Namensschildchen. François zum Beispiel, erklärte Beringer, habe mit dem Bilderrahmen diesen Ausschnitt der Wand zu seinem Raum bestimmt, den er nach seinen Vorstellungen ausfüllen würde.
Les murs de l'entrée étaient de couleur pastel. Des cadres sans photos y étaient suspendus. Seulement des cadres. Rouge, vert, brun, jaune. François, par exemple, expliquait Béringer, avait imposé avec le cadre aux photos que cette partie du mur était son espace, qu'il pouvait le remplir selon ses idées. Dans son cadre, il y avait des petits gribouillis et des bouts de papier collés. Dans un autre, des bonshommes en chewing-gum. Dans le cadre suivant, il y avait une photo avec un couple, probablement les parents. Et à côté, sur un morceau de papier, une petite maison penchée avec une cheminée qui ressemblait à un pénis géant. Un autre cadre était peint en noir, puis des animaux, beaucoup, beaucoup d'animaux. Un thème favori, visiblement. Parfois, ils étaient découpés, parfois peints, parfois en pâte à modeler. Béringer disait, non sans fierté, que les objets étaient remplacés chaque jour. Puis la visite s'est poursuivie le long d'un large couloir dont les côtés étaient bordés de vitrines. La salle était déjà vide pour la prochaine course de Formule 1 en fauteuil roulant. Deux jeunes châtelaines et trois jeunes châtelains, comme l'indiquait une affiche sur la porte d'entrée, allaient s'affronter. Plusieurs chaises roulantes étaient alignées le long de la salle avec des enfants âgés de 4 à 12 ans, les spectateurs. Béringer et Finck se sont assis sur les deux chaises ordinaires, restées libres. Un garçon qui s'accrochait au bras d'un infirmier a lâché prise et s'est avancé de manière étonnamment autonome au milieu de la salle avec un drapeau de départ et d'arrivée, comme ceux utilisés pour les courses automobiles, mais en un peu plus petit. Au bout du terrain, une jeune fille blonde, vêtue d'une robe rouge vif et d'une couronne de fleurs dans les cheveux, s'accrochait d'une main à un poteau, l'autre tenant un mégaphone devant sa bouche. Elle avait visiblement du mal à crier 3, 2, 1, 0 de la manière la plus compréhensible possible. Pendant ce temps, quelqu'un de l'arrière-plan s'était avancé presque sans s'en apercevoir derrière la petite et lui avait posé le plat de la main dans le dos. Le garçon a fait voler au sol l'un des drapeaux qu'il avait levé. Après le signal de départ, les fauteuils roulants se sont mis en mouvement l'un derrière l'autre au début. Sur le sol, deux traits de craie parallèles en forme de grand ovale mesurant tout l'espace resté libre marquaient le parcours de la course. Les enfants qui regardaient criaient pour encourager les candidats. Béringer se pencha vers Finck et lui cria à l'oreille, à cause du bruit, « Le deuxième, c'est Julien !» Finck l'avait déjà reconnu en entrant dans la salle. Julien et ses camarades agitaient les bras. L'incontrôlable, le primitif, le submergeait. Il avait le fantasme que quelque chose qui effrayait les garçons et les filles devait être mis en fuite par de grands gestes sauvages, des hurlements et des sons explosifs. Les mouvements incontrôlés, les bouches grandes ouvertes, les rires gloussants, tout cela semblait à Finck une affirmation furieuse de la vie contre les cordes imposées par quelque dieu que ce soit. il ne pouvait s'empêcher de penser à Isaac, à l'Akeda, Isaac lié, livré sans défense à son père, jusqu'à ce que Dieu envoie l'ange. Là aussi, un ange serait-il miséricordieux et annulerait-il la terrible sentence ?
Ja, wir nähern uns dem Ende dieser Podcast-Folge. Nous approchons de la fin de cet épisode de podcast. Il est important pour moi de noter que le roman est porté par une conviction fondamentale, vraiment philanthropique et très conciliante, à savoir que faire des erreurs dans la vie est quelque chose d'inévitable. Fink va faire la connaissance de son petit-fils. Il restera quelques semaines près du château et le verra maintes fois. Mais la quête de Fink vers son vrai moi, vers son essence, doit échouer. C'est un fantasme. À la fin, l'image du cygne noir apparaît. Est-ce qu'il représente l'échec ?
Also ganz sicherlich sieht sich Fink selbst als schwarzen Schwan und als solcher wird er auch von seiner Frau Helen geliebt.
Fink se voit certainement comme un cygne noir. Et c'est en tant que tel que sa femme Helen l'aime. C'est-à-dire, elle préfère le non présentable. Elle dit, je pourrais aussi épouser un trésorier, mais ce serait bien moins excitant. C'est qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Et c'était en fait ce qui était fascinant, ce qui était éblouissant chez lui. Et son excursion de fin de vie devait prouver qu'il n'y a que des cygnes blancs dans le monde. Donc le réel existe. Mais il faut bien voir que son effort de rattraper quelque chose avec les trois personnes qu'il a visitées, son frère, sa fille aînée, son petit-fils, a échoué. Il ne lui reste donc rien d'autre à faire que de dire que c'est comme ça. Et que s'y impliquer à nouveau, cela ne mène à rien. Concernant l'échec, on peut bien sûr se consoler avec Georges Tabori, auteur dramatique et metteur en scène, qui a résumé tous nos efforts en concluant qu'on échoue, qu'on va toujours échouer, échouer encore, échouer mieux.
Le 30e épisode touche à sa fin. Le comédien et auteur Michael Efas a lu des extraits de son roman Fink, Jean-Marie Fink. Nous avons parlé de la crise existentielle du protagoniste du même nom, de ses tentatives de rédemption et de ses vaines tentatives de devenir un cygne blanc. Un très grand merci à Pedro Cadivar, la voix française de Michael Efas. Je me réjouis de recevoir des lettres, des commentaires et des recommandations de livres. Et n'hésitez pas à partager mon podcast s'il vous a plu. C'était Littéramour en compagnie de Sigrid Breitmann.